Alors il me revient la douloureuse mission de tenter de vous tenir éveillé à l'heure de la sieste. Ça participe du bizutage en fait. On prend le gars qui n'est pas de chez vous et on le met à faire le truc impossible. Alors peut-être qu'il serait préférable que je parle pas trop fort pour vous laisser tranquillement digérer ce festin. Je vais tenter donc de vous parler cet après-midi de la vie dans l'esprit au-delà de toute discipline. Et quand je dis au-delà, ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte la dimension de discipline et savoir la dépasser. Dans un premier temps, je voudrais réaffirmer combien la vie spirituelle, quelles qu'en soient les modalités, repose sur une discipline qui est indispensable. N'en déplaise à ce qui a pu vous fasciner ce matin, mais qui, je pense, mériterait d'être creusé de manière plus précise chez Bonhoeffer, il n'y a pas de christianisme sans religion. Il n'y a pas de fidélité possible sans forme donnée à cette fidélité. Et une fois encore, quelles que soient après les formes en question, mais nous avons besoin, et nous le savons bien si nous avons tenté de tenir dans cette fidélité au long des années, cette expérience que nous avons tous pu faire, qu'il n'y a pas de fidélité possible sans que nous donnions un cadre à cette fidélité. Pas simplement dans la vie de prière. Dans l'amitié, si on se dit simplement on se rappelle puis on se voit, on ne se verra jamais. Si on ne prend pas rendez-vous, on ne se voit pas. Si dans un couple, on ne prévoit pas des moments où on puisse se parler, on ne se parlera pas. Dans la vie de prière, et dans la vie de prière dans sa dimension solitaire, personnelle, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. Nous avons besoin de règles de vie, d'une régularité de lieu, d'horaire, de forme que prend la prière. Personne ne peut prier s'il se dit qu'il priera quand il en aura le temps. Donc la fidélité passe par la discipline. Alors, ce que je dis peut sembler très austère et tout à fait contraire aux critères qui semblent majeurs aujourd'hui de valeur d'une vie spirituelle, qui serait l'authenticité, la spontanéité, faire ce qui nous habite au moment où ça nous habite. Mais ce que je trouve fascinant, c'est de voir combien nos contemporains sont capables de s'infliger des disciplines de fer en termes de régime amaigrissant ou d'entraînement sportif, mais que dès qu'il s'agirait de la vie spirituelle, il faudrait être dans la créativité permanente et refuser toute forme de règles. Dans la vie spirituelle, comme dans l'entraînement sportif, on ne peut progresser qu'au prix d'un effort régulier, quotidien, parfois un peu toujours le même. Ce ne sont pas les expériences extraordinaires qui font la vie de prière, mais la fidélité au quotidien pendant des années. Et ce n'est pas très vendeur à l'époque des événements médiatiques, des scoops, etc. Mais si nous tentons de proposer un chemin chrétien de prière, il faut le faire en sachant que de ce point de vue-là, nous serons décalés, que nous présentons le chemin de la fidélité et de l'humilité. Et oui, il n'y a pas de mystère, ceux qui arrivent à prier chaque jour, c'est ceux qui se donnent quelques règles pour tenir cette discipline. Et en même temps, ce qui est stimulant, c'est de voir que cette discipline, on ne va pouvoir la tenir dans la durée que si on sait l'appliquer avec souplesse. Reconnaître que les voyages, que la maladie, que les imprévus de la vie viennent forcément y introduire des variations. Quand on fait un peu d'accompagnement spirituel, c'est toujours fascinant de voir les grandes déclarations programmatiques du mois de juin où les âmes vous disent « Ah, ben voilà le temps des vacances, je vais pouvoir consacrer du temps à Dieu, ça va être formidable. » Et puis, revenir les mêmes âmes au mois de septembre, disant « Ça a été l'horreur, les petits-enfants étaient là tout le temps, j'avais pas mon horaire, j'avais pas ma pièce de prière, j'avais pas, etc. » Et ces vacances qui s'annonçaient mystiques se sont révélées cataclysmiques. Et donc, oui, il nous faut tenir un cadre tout en étant assez souple dans ce cadre. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de voir que notre fidélité dépend autant de notre discipline que de notre capacité à rester souple dans cette discipline. Si nous nous imposons une discipline de fer, un jour ou l'autre, ça sera invivable et il y aura un risque que nous envoyons tout promener d'un coup. Mais si nous imaginons qu'on va pouvoir être seulement dans l'adaptation aux circonstances, prier quand on a le temps, eh ben, on n'ira pas bien loin. Et donc c'est l'équilibre entre discipline et adaptation qui nous permet de tenir dans la durée. Et alors, ce qui est très utile dans le fait de se donner une règle, prier le même temps, tous les jours, à la même heure, de préférence au même endroit, et de préférence de la même façon, c'est que ça permet d'objectiver les choses. Ça permet de donner un cadre à l'engagement, de donner du temps à Dieu. Et de se tenir, tant bien que mal, à cette règle, que l'on se sente fervent ou pas, que l'on ressente un désir de prier ou pas. Moi, j'avais beaucoup déçu des visiteurs au couvent qui voulaient que je leur fasse des confidences mystiques en disant « Mais vous chantez l'office plusieurs fois par jour avec les frères, mais qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous pousse à aller comme ça plusieurs fois par jour ?» Et je leur ai dit bah, « C'est la cloche qui sonne. » C'était un peu plat, mais c'est ça qui permet pendant des années et des années et des années de chanter les psaumes avec ses frères. Si à chaque fois on se disait, voyez, est-ce que là je le sens, est-ce que vraiment je le sens là ou là, il n'y aurait pas grand monde dans l'église. Hein. Et donc on y va parce que c'est l'heure et puis basta. On va pas et c'est pas à critiquer trop facilement, pas comme un formalisme. Stérile. J'étais un peu dérouté, je vous l'avoue, ce matin, d'entendre un nombre considérable d'entre vous se récrier à la suggestion de Xavier qui proposait que l'Église rappelle qu'il faut aller à la messe le dimanche, et un certain nombre d'entre nous, oh, vous avez tout de suite réagi, oh, quelle horreur hein. Ah oui, et quand vous êtes allé faire des stages zen où on vous avait médité 7 heures par jour, vous avez trouvé que c'était des contraintes insupportables. Non, c'était comme ça venait d'Orient, c'était très très bien. Mais dès que ça vient de la tradition chrétienne, c'est considéré comme épouvantablement contraignant. Eh ben non, c'est pas épouvantablement contraignant, c'est des trucs basiques pour essayer de tenir le choc et de surtout de ne pas être les prisonniers de notre subjectivité, parce que au nom d'authenticité, aujourd'hui, on fait finalement de l'ego et de son ressenti le critère majeur de validité. Mais une fois encore, si nous avons cette idée exotique de consacrer du temps tous les jours à Dieu pour lui dire toujours la même chose, c'est-à-dire le même mot pendant des années, et nous tenir en sa présence, c'est bien pour lui et pas pour nous. C'est d'abord et avant tout le culte que nous lui rendons, le temps que nous lui offrons. Et donc, osons penser que peu importe que ce que nous ressentons ou pas, cette règle de vie que nous nous sommes donnée nous permet de tenir dans cette fidélité. Mais là encore, c'est extraordinaire. Il y a des tas de domaines où on accepte ça sans problème. Est-ce que des parents se demandent, est-ce que j'ai envie là, de préparer à dîner pour mon enfant ou pas? Je le sens ou je le sens pas que c'est... Non, c'est l'heure du dîner, on donne à bouffer à son enfant. J'espère qu'on ne se pose pas la question, qu'on ne se prend pas le pouls pour savoir si on a envie ou pas, quoi. Et on ne dit pas, mais quelle contrainte épouvantable, ça bouffe tous les jours. Non, ben voilà, c'est normal. Bon. Donc c'est extraordinaire de voir que... Il y a des tas de domaines où on sait très bien, ce que je vous raconte est une platitude totale, il y a des tas de domaines où on sait très bien que un certain nombre de règles nous permettent de tenir dans la durée. Et pourquoi est-ce que dans la prière, et si en plus elle devenait chrétienne, alors il faudrait au contraire être dans de l'authenticité et être le jouet de sa subjectivité. Je crois que c'est vraiment important de se dire que dans la prière silencieuse, on ne part pas de soi et de ses états d'âme, mais de Dieu en présence de qui on se tient, de Dieu avec qui on a rendez-vous, de Dieu qui compte sur notre présence, voire du monde qui compte sur notre présence en présence de Dieu pour lui. Enfin bref, conjuguez ça comme vous voulez, mais en tout cas, ne pas partir d'abord de ses états d'âme. Un grand maître spirituel du 15e siècle, Denis le Chartreux, il a une expression que j'aime bien parce que c'est furieusement plat. Quand c'est le temps de prier, prions, de travailler, travaillons, de parler, parlons, de faire silence, soyons silencieux. Boum. Voilà. Mais c'est extrêmement réconfortant, ça, de se dire, quand c'est le temps de prier, prions. Et basta! Pas besoin de se poser des questions, de savoir si j'ai envie, pas envie, comment je vais faire, où est-ce que je vais me mettre aujourd'hui, je prends mon petit coussin rouge ou mon petit fauteuil vert, machin. C'est le temps de prier, prions. Hein. C'est très très libérant, vous savez, une certaine objectivité. Donc, il n'y a pas de mystère, même si vous trouvez que je vous embête avec tout ça, vous pouvez toujours essayer de faire autrement, ça ne marchera pas. La fidélité repose sur un minimum de règles, de stabilité et d'objectivité. Et pourtant, une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, il faut souligner que la prière, et l'union avec Dieu encore plus, est au-delà de toute action de notre part. C'est-à-dire que l'un des dangers de la discipline dans la prière serait justement de confondre la prière et l'entraînement sportif, quoi, de dire plus j'en fais, plus les muscles spirituels vont gonfler. Donc arriver à conjuguer cette discipline qui nous est nécessaire et puis ce qui est fondamentalement la grâce, le don de Dieu. Sainte Jeanne de Chantal, dont je reparlerai tout à l'heure, parlait du fait que lors de la visitation qu'elle avait fondée avec François de Sales, beaucoup de ses sœurs avaient un attrait pour l'oraison de simple présence à Dieu, dont elle disait « Cette oraison de simple présence à Dieu où l'on est oisive, sans pouvoir rien faire, et celles qui veulent faire gâtent tout et se peinent. » Celles qui veulent faire gâtent tout et se peinent. Donc, si nous transformons par générosité, par bonne volonté, la prière silencieuse en une méthode contraignante, en un effort destiné à tout faire pour plaire à Dieu, alors nous gâtons tout et nous nous peinons. D'une part parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, c'est toujours bon de se le rappeler, mais aussi parce que l'effort est absolument contraire à cette forme de prière contemplative. S'il y a un combat, c'est celui de la fidélité, celui de l'offrande de notre temps à Dieu. Mais dans ce temps, il n'y a pas d'effort. Ce temps, c'est justement celui de la gratuité, celui de l'arrêt de l'activité pour Dieu. C'est le sabbat pour le Seigneur. Le père Jean Rigoleuc, qui est un jésuite du XVIIe siècle, dit « L'oraison de silence est une simple et respectueuse vue de Dieu, une amoureuse attention à la présence de Dieu et un doux repos de l'âme en Dieu. » L'oraison de silence est une simple et respectueuse vue de Dieu, une amoureuse attention à la présence de Dieu et un doux repos de l'âme en Dieu. Ben oui, ça ne serait que ça. Ben oui. Jean Rigoleuc, c'est un nom bizarre, mais c'est comme ça qu'il s'appelait, jésuite breton, R-I-G-O-L-E-U-C, jésuite du XVIIe siècle. L'oraison de silence est une simple et respectueuse vue de Dieu, une amoureuse attention à la présence de Dieu et un doux repos de l'âme en Dieu. Donc vous voyez, simplement se tenir paisiblement en présence de Dieu, contempler avec foi, amour et peut-être un peu de stupéfaction le fait que Dieu m'accueille en sa présence, que Dieu se rend présent en moi. Et puis c'est tout, tranquillement. Tranquillement, sans chercher à faire des efforts, sans chercher à faire des prouesses fussent-elles spirituelles. Et en présence du père Lawrence Freeman, on ne peut pas ne pas citer Don Augustine Baker, son noble prédécesseur dans la vie bénédictine anglaise et dans la prédication en France de la prière silencieuse contemplative, toujours au XVIIe siècle, dont Augustine Baker, qui disait « La prière de silence intérieur, de calme et de repos, dans laquelle il n'y a aucune méditation, aucun acte de volonté expressément, directement formé, est une forme d'attention réelle, habituelle envers Dieu, plus qu'une tension formelle et directe vers lui. » Alors quand il dit qu'il n'y a aucune méditation, c'est au sens méditation d'un texte. Hein. Donc vous voyez, c'est plus une forme d'attention réelle et habituelle envers Dieu qu'une tension formelle et directe vers lui. Donc on retrouve à l'intérieur de la prière ce que je disais tout à l'heure à l'extérieur, enfin du cadre, c'est que certes il y a une forme, et que suivant qu'on pratique une oraison carmélitaine, la méditation chrétienne, la prière de silence intérieur, on ne va pas faire exactement la même chose, mais, et c'est très important qu'il y ait cette structure-là qui nous permet de tenir dans la durée. Mais en même temps, cette attention à la structure, cette attention à la forme, on pourrait presque dire à la méthode, ne doit pas devenir une tension formelle et directe vers lui. Il ne s'agit pas, vous voyez, que ça devienne opiniâtre, quoi, que ça devienne le désir de bien faire et puis d'avoir une bonne note à la sortie. Il s'agit tout simplement de porter notre attention envers Dieu, de nous recentrer inlassablement, non pas sur nous, mais sur lui. Ça, c'est vraiment essentiel. Certes, on le voyait ce matin dans l'atelier, la perception de ce que nous sommes, de notre corps, de notre respiration, etc., elle peut être un point d'appui très utile pour nous tenir présents, pour éviter de divaguer. Finalement, les distractions, comme on dit, on pourrait aussi les appeler des désincarnations. Quoi. On est complètement déconnecté, on est parti. Mais attention qu'il ne faut pas non plus que la tension portée à notre corps nous invite à nous centrer sur nous. Il s'agit de s'appuyer sur la perception de notre corps pour nous centrer sur lui. Je cite encore un auteur du XVIIe, alors celui-là vous est sûrement incroyablement familier, c'est Constantin de Barbançon. Hein, c'est votre pote à vous, hein, vous le fréquentez assidûment. Donc le père Constantin de Barbançon était un capucin, donc franciscain, un des innombrables témoins de cette pratique au XVIIe. Il dit, l'âme dans cet état n'est ni oiseuse, donc ni paresseuse, ni en pure attente, mais en continuelle opération, non pas d'élévation ni de cherchement de Dieu intérieur, mais plutôt comme d'embrassement de lui au centre. Embrassement de Dieu au centre. Il ne s'agit pas de s'élever ou de chercher Dieu, il s'agit de l'embrasser. Il ne s'agit pas de s'élever ou de le chercher, il s'agit de l'embrasser. De l'embrasser, pourquoi? Parce qu'il est là. On n'a pas besoin de le chercher, on n'a pas besoin de lui dire de venir, on n'a pas besoin de s'élever pour monter plus haut parce qu'il doit être plus haut. Il est là. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc il s'agit de l'embrasser au centre. Et il continue en disant, n'étant en paix si elle ne se sent ainsi respirée en Dieu. Se sentir respirée en Dieu. Et c'est un exemple de cette situation où il s'appuie sur l'expérience de la respiration pour dire, ben, je respire en Dieu. Enfin, Dieu est tellement, mais tellement présent que même ce mouvement si matériel, on pourrait dire, musculaire, et physico-chimique de la respiration, je le vis en Dieu. Et je continue encore son texte, ne pouvant souffrir de se sentir chercher soulagement ailleurs, ou reposer en l'attente d'autre chose. Non que je veuille dire que toute autre pensée extravagante soit entièrement exclue et n'ait aucune place, car cela est impossible en cette vie. Très important. Il ne dit pas qu'aucune pensée extravagante soit entièrement exclue ou n'ait aucune place, parce que c'est impossible. Donc arrêtez de courir après le vide. Je voudrais faire le vide, ben, sombrer dans le coma, c'est la seule solution. Hein. Il est... Ou reposer en l'attente d'autre chose. Non que je veuille dire que toute autre pensée extravagante soit entièrement exclue et n'ait aucune place, car cela est impossible en cette vie. Mais que cela n'a nulle efficace. C'est-à-dire que je peux avoir des pensées, bien sûr, extravagante, éventuellement. Je peux pas les évacuer de ma tête. Toute la question, c'est de bien comprendre qu'elles n'ont nulle efficacité, qu'elles ne m'apporteront aucun soulagement. Et qu'il me faut me reposer en Dieu, qu'il me faut inlassablement embrasser Dieu au centre. Donc, première étape de la réflexion que je voulais vous proposer, d'attirer votre attention sur le fait que nous sommes libres par rapport à des règles qui seraient vécues comme contraintes exclusives, oui, mais que sans règles, on n'arrivera nulle part. Et donc, qu'il nous faut être libre dans notre rapport à la règle. Et c'est vrai de toute règle religieuse. Ce n'est pas la règle religieuse en elle-même qui est mauvaise, c'est ce qu'on en fait. C'est le rapport trop formaliste qu'on peut avoir avec elle. Mais le rapport trop désinvolte est tout aussi nocif. Et donc, toute cette alchimie subtile entre savoir se donner des règles, parce qu'en fait, comme nous sommes là dans des formes de prière qui se pratiquent en tout cas au quotidien plutôt en solitaire, c'est bien à nous que nous nous donnons des règles, c'est bien nous qui choisissons telle ou telle, telle ou telle forme de prière qui semble nous convenir. Mais après, on va s'y tenir On va s'y tenir avec souplesse et sans faire, c'est très subtil, hein, le respect de cette forme est le gage de notre fidélité et en même temps, il ne s'agit pas d'imaginer que c'est grâce à cette règle que nous allons atteindre Dieu. L'union avec Dieu est un don de Dieu. La grâce ne se conquiert pas. Il nous faut embrasser cette présence de Dieu qui nous est donnée sans aucun mérite de notre part. Dans un deuxième temps, je voudrais vous proposer de nous arrêter sur un autre aspect du rapport à la règle, à la discipline. C'est le fait que la prière chrétienne ne doit jamais être identifiée à une posture ou à une méthode. Le père Laurence l'évoquait ce matin, c'est la liberté est apportée par la présence de l'Esprit Saint et dans sa rencontre du Christ, saint Paul a vécu une libération par rapport aux prescriptions rituelles de son judaïsme. Et il a découvert que c'était bien la relation au Christ, c'était bien l'Esprit qui nous habite, qui est source de liberté. Et donc, à partir de cette expérience fondatrice de l'accueil de l'Esprit qui nous guide dans ce qui est bon et juste, on a vu se développer une incroyable diversité de pratiques de prière au sein de l'Église, et même au sein de l'Église catholique, qui parfois n'est pas réputée pour sa diversité, et ben peut-être bien que si. Et donc, ça peut donner un peu le tournis quand on cherche à développer une vie spirituelle, de se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir pratiquer? Parce qu'il y a tellement de propositions, je ne sais pas très bien où donner de la tête. Alors, c'est sûrement important de souligner que les pratiques spirituelles, en tout cas celles qui ont traversé les siècles, elles ont leur cohérence intérieure. Et que le grand risque ici, c'est le supermarché. Je fais un petit peu de Lectio Divina comme les bénédictins, sauf quand je lis la Bible comme les jésuites, parce que c'est quand même sympa, et puis tous les ans, je fais ma retraite chez les carmes, puis j'adore aller à Vêpres chez les moines, et puis, ah ben tiens, si je faisais un petit week-end bouddhiste, l'histoire de se requinquer un peu, de changer, etc. Et puis, mixer tout ça, salé, poivré, servir chaud, enfin servir plutôt tiède, et puis vous pouvez être certain que vous pouvez faire ça pendant 20 ans, il ne se passera absolument rien, c'est-à-dire que vous n'aurez rien construit, comme si vous commenciez à construire une maison et qu'à chaque brique que vous mettiez, vous disiez, tiens, si je mettais plutôt une pierre, et puis ah, ben, la fenêtre, on peut la mettre là, mais on peut la mettre là, enfin bref, il ne se passe rien. Parce que chacune de ces grandes traditions, elle a sa cohérence interne, et que dans la tradition ignatienne, on va prier parce que c'est lié à une certaine manière de cette manière-là, parce que c'est lié à une certaine manière de lire la Bible, c'est lié à une certaine manière de concevoir la communauté, c'est lié à une certaine manière de concevoir l'Église, etc., etc., qui est complètement différente de la manière dont on va lire la Bible, prier, vivre la communauté en milieu bénédictin, par exemple, sans aucun jugement de valeur entre ces deux traditions, simplement dire tout ça a une cohérence, tout ça repose sur une vision de la non seulement de la vie chrétienne, mais même de la théologie, de la connaissance de Dieu qui n'est pas la même. Je me souviens, dans mes premiers temps d'enseignement, j'étais l'assistant d'une religieuse ignatienne à la Cato de Paris, et en théologie morale, et elle me dit « il va falloir que tu prépares des travaux dirigés sur la volonté de Dieu ». La volonté de Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? Et le discernement de la volonté de Dieu. Je dis, je sais pas, chez nous, on n'en parle jamais. Alors elle me regarde avec des yeux, je dis, ben non, dans la vie dominicaine, quand on va prendre une décision, je n'ai jamais entendu un chapitre dominicain se poser la question de savoir quelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on pense. On pense que Dieu veut qu'on soit des bons dominicains, ça j'espère, et puis après, à nous de faire le job, quoi, de prendre des décisions, etc. Donc en tout cas, on ne se pose jamais la question de quelle est la volonté de Dieu. Alors la pauvre sœur tombait moitié en pâmoison et elle finit par me dire d'une voix blanche, mais vous dites quand même le Notre Père. Oui, mais dire que ta volonté soit faite, ça ne veut pas dire que Dieu a décidé et qu'il faut qu'on exécute ce qu'il a décidé. Donc il y a des compréhensions, je ne peux pas me lancer trop longtemps sur ce sujet, mais il y a des compréhensions fort différentes de ce qu'est la volonté de Dieu et de la manière de mettre en œuvre cette demande du Notre Père, profondément différentes selon les traditions spirituelles. Et toutes les traditions ne vont pas pratiquer de discernement pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Donc, tout ça pour dire attention au supermarché, attention au mixage de choses qui ne vont pas bien ensemble. Alors, quand est-ce qu'on se retrouve en présence de méthodes? C'est relativement tardif, puisque c'est au XIVe siècle. Jusque-là, on n'est pas du tout dans l'époque des méthodes. C'est dans le courant spirituel qu'on appelle la Devotio Moderna que, voulant faire partager ce qui était le fait plutôt des religieux jusque-là à des laïcs, on s'est mis à leur proposer des méthodes de prière. Partager la vie spirituelle vécu par les religieux et les moines des laïcs, c'est pas l'invention de Vatican II, ça date du XIVe siècle. Et donc, jusque-là, on n'enseigne pas vraiment des manières de prier, on n'enseigne pas des méthodes de prière. Un des grands conseils venant des pères du désert et qui rejoint notre pratique, on le trouve dans la Philokalie, assis dans ta demeure, souviens-toi de Dieu. À la fois tout est dit et puis en même temps, c'est pas très précis cette affaire-là. Hein. On fait comment, ça dure combien de temps, on s'assoit comment, on fait comment pour se souvenir, etc. Souviens-toi de Dieu. Pas beaucoup d'indications précises parce que l'essentiel n'est pas dans une méthode mais dans une intention qui va se traduire par une pratique. Mais ce que les maîtres enseignent, c'est l'intention, c'est le mouvement, on pourrait dire. De même, le grand Jean Climac, 7e siècle, un des grands maîtres de la tradition monastique, qui dit, et ça sera repris constamment par la suite, que le souvenir de Jésus ne fasse qu'un avec ton souffle. Que le souvenir de Jésus ne fasse qu'un avec ton souffle. Donc, tout à fait éclairer notre pratique, le fait de dire le nom de Jésus ou le nom que nous donnons à Dieu ou le terme que vous employez dans votre communauté en lien avec le souffle pour se tenir dans la mémoire de Jésus. Après, comment se souvenir, comment respirer, comment s'asseoir, eh ben, allez-y, essayez, vous verrez quelle est la manière de faire qui vous convient, puisque les maîtres chrétiens sont toujours tellement attentifs à la singularité des personnes et au fait que tout le monde ne va pas faire de la même façon. Mais donc, ce n'est pas inutile de se souvenir que 14 siècles sur 21 n'enseignent pas de méthode et que même une fois qu'on commence à s'intéresser aux méthodes, toutes les traditions spirituelles chrétiennes ne vont pas emboîter le pas. C'est-à-dire que, comme je l'évoquais hier, chez les mystiques rhénans et cartes en tête, il n'y a pas de méthode de prière et chez leurs lecteurs par la suite non plus. Donc, cela nous invite à peut-être relativiser la notion de méthode. Et le fait qu'il y ait cette diversité des pratiques de prière au sein du christianisme, et même au sein d'une pratique contemplative dépouillée comme celle que nous connaissons, nous invite, et je crois que c'est vraiment capital à rappeler, nous invite à ne pas tomber dans une idolâtrie de la méthode. Ce n'est pas la méthode qui sauve, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc là encore, vous voyez, un peu paradoxe, je vous disais en commençant, c'est capital, si on veut grandir, de choisir une méthode et de s'y tenir, mais à condition de ne pas en faire une idole, quoi. C'est toute la subtilité de cette souplesse dont je parlais. Alors on a un très bel exemple de cela, je voudrais terminer là-dessus, un très bel exemple de cela dans la relation spirituelle profonde qui a uni Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. François de Sales était un homme prudent qui avait mis au point, en particulier pour les laïcs, dans l'introduction à la vie dévote, une méthode d'oraison à laquelle lui-même se tenait, qui procédait avec différentes étapes, tout était bien balisé, on savait bien tout bien ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, Tipa, que sa fille spirituelle la plus proche, l'âme de son âme, Jeanne de Chantal, s'avère avoir une certaine difficulté à rentrer, à mettre en œuvre tout ce bazar, et être beaucoup plus attirée, comme je le citais tout à l'heure, par l'oraison de simple présence de Dieu, où l'on est oisive sans pouvoir rien faire. Et donc, elle avait pourtant une dévotion et une confiance éperdue dans François de Sales, mais elle ne faisait pas comme lui-même avait appris à le faire. Et c'est très beau de voir qui laisse Jeanne de Chantal suivre son propre chemin. Chemin qui amènera Jeanne de Chantal à écrire un jour « La grande méthode de l'oraison, c'est qu'il n'y en a point. » La grande méthode de l'oraison, c'est qu'il n'y en a point quand le Saint-Esprit s'est rendu maître de la personne qui médite, car il en fait ce qu'il lui plaît, sans qu'il y ait pour lors ni règle ni méthode. Donc comme je le disais hier, le Saint-Esprit, c'est lui fondamentalement qui est libre. Donc il s'est rendu maître de la personne qui médite, il en fait ce qui lui plaît. Et à ce moment-là, évidemment, il ne s'agit pas que la personne en question fasse obstacle à l'action du Saint-Esprit parce qu'elle est cramponnée à sa méthode. Vous savez, probablement dans vos groupes, on rencontre cette question posée avec angoisse. Mais s'il y a un moment où je connais un silence profond, est-ce que je dois dire le mot quand même ? Eh ben c'est une fausse bonne question, parce que si je suis en train de me rendre compte que je suis dans le silence profond, c'est que j'y suis plus. Donc j'ai qu'un truc à dire, c'est continuer mon mode de prière habituel. Mais en revanche, il ne s'agit pas que je sois tellement désireux de bien appliquer la méthode pour que le père Freeman me donne une bonne note à la fin de la session, et que je dise bien le mot tout comme il a dit, que j'empêche ce silence d'arriver. Ça marche aussi avec le père Gueulette, hein, c'est pas... Mais vous voyez, attention à votre générosité, attention à votre bonne volonté qui peut vous amener à être de trop bons élèves. Moi, je trouve qu'il y a plein de chrétiens qui sont des très très bons élèves, admirables, mais tellement admirables qu'ils empêchent l'Esprit-Saint d'agir en eux, enfin, qui sont là à s'accrocher. Donc la grande méthode de l'oraison, c'est qu'il n'y en a point. Il faut, dit-elle, que l'âme soit entre les mains de Dieu comme l'argile entre les mains du potier. Alors ça, c'est entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que bon, bah, je ne fais rien, puis si Dieu veut que je prie, il priera en moi. Non. Moi, ce qui dépend de moi, c'est de mettre en place le cadre, la forme, etc. Mais sans que je sois tellement crispé sur cette méthode que j'en fasse une idole et que la méthode prenne la place de Dieu. Elle écrivait à une, à une religieuse de la Visitation, regardez Dieu et laissez-le faire. Voilà votre seul faire. Regardez Dieu et laissez-le faire. Voilà votre seul faire. Alors, ce qui est délicieux, c'est qu'elle continue en disant, c'est ce que notre bienheureux Père m'a commandé de pratiquer invariablement et je vous recommande de sa part. Enfin, il a mis un certain temps à lui recommander ça, parce qu'au début, il disait, mais vous ne croyez pas qu'il faudrait quand même organiser un peu. Et il se rendait compte que ça ne marchait pas, quoi. Donc, je trouve ça très beau de voir François de Sales, qui est quand même évêque, qui a mis sur pied sa méthode, il devait en être assez fier, qui embarque Jeanne de Chantal dans cette aventure de fondation, et donc vraiment une posture d'autorité maximum, quoi. Et puis qui reconnaît que bah, pour elle, c'est pas ça qu'il faut faire, et qui va la laisser grandir à sa façon, et qui va même l'encourager de plus en plus à non seulement pratiquer cela, mais enseigner ça aux religieuses de la Visitation. Alors que lui-même était un peu dérouté par une prière aussi simple, mais il a bien vu que c'était l'Esprit du Seigneur qui conduisait Jeanne de Chantal à une telle pratique. Et donc il a pu reconnaître que ce qui lui convenait à lui ne convenait pas à Jeanne de Chantal, et il a reconnu la singularité de leur chemin réciproque. Donc vous voyez, mon discours vous a peut-être semblé alambiqué et complexe, parce que c'est pas facile de dire que nous avons absolument besoin d'un cadre tout en idolâtrant pas le cadre, quoi, hein, de pouvoir jouer sur ces deux aspects. Je réserve peut-être quelques minutes pour que nous puissions dialoguer et que vous puissiez m'envoyer des tomates si l'envie vous en prend. Ça détend toujours d'envoyer des tomates sur l'orateur. Mais oui, mais on attend le micro. On est très discipliné.
Concernant la méthode, si les souvenirs sont bons, le Christ, dans les évangiles, à un moment donné, donne une méthode quand même de prière, en disant ne rabâchez pas comme font les païens. Donc là, déjà,
c'est un conseil.
C'est un conseil. Et après, il annonce que notre Père. Non seulement il y a la forme, il y a le fond, enfin c'est assez bien verrouillé cette affaire. Non mais voilà, donc est-ce que là il nous donne des marges de manœuvre justement?
Alors il ne faut pas confondre enseignement et méthode. Bien sûr, il y a un enseignement sur la prière dans l'Évangile, enseignement qui est demandé par les disciples, et le fait qu'on demande un enseignement n'est pas le signe qu'on est nul, c'est le signe qu'on prie. Apprends-nous à prier. Quand on dit ça, soit à Dieu, soit à quelqu'un qu'on rencontre, apprends-moi à prier, c'est le signe qu'on est déjà en train de prier. Et que dans l'expérience de la prière, on a déjà fait l'expérience de sa petitesse et de sa médiocrité. Donc on aspire à un enseignement qui nous conduise plus loin. Mais il faut faire une grande différence entre enseignement et méthode, c'est-à-dire que, oui, Jésus donne quelques conseils du type « ne rabâchez pas », il donne un texte qui est le texte du Notre Père, mais une méthode consisterait à dire à quel moment de la journée il faut dire le Notre Père, combien de fois, en étant assis, en étant debout, etc. Donc, vous voyez bien que comment vous appelez ça, les consignes de base qui sont recommandées dans votre mouvement, comme dans beaucoup d'autres mouvements spirituels, sont plus précis que simplement « dites notre Père ». On va dire, bah, dans notre manière de prier à nous, on vous recommande de faire ceci, cela. Bon. Et c'est là que je parle de méthode. C'est quand on rentre beaucoup plus dans les détails concrets qui, une fois de plus, sont les conditions nécessaires de la fidélité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut arriver à se dire c'est les conditions nécessaires de la fidélité et en même temps ce n'est pas la grâce quoi. Enfin, ce n'est pas pas la conquête de la grâce. Xavier, après avoir envoyé un scud au frère Laurence, en a préparé un pour moi. Ah non, vous me sauvez, merci, vous me sauvez des scuds de Xavier.
Vous parliez du danger du tourisme spirituel, et
Oui.
j'entends ce que vous dites, mais est-ce que vous ne considérez pas que c'est une richesse, par exemple en tant que chrétienne, d'aller méditer dans un groupe de personnes d'une autre tradition, en sachant très bien où on se situe, et de se rejoindre entre personnes dans la profondeur du silence, et d'être, voilà, de...
Et bien sûr, si vous n'êtes pas des idolâtres de la méthode, vous avez bien évidemment cette possibilité. Quand je parlais du tourisme, c'était pour parler de gens qui picorent à droite à gauche. Ce que vous venez de décrire, on entend très bien que vous savez où vous êtes, vous savez qui vous êtes. Et donc en effet, quand on est structuré par une tradition, c'est comme ça qu'on va être d'autant plus disponible pour le dialogue avec d'autres. Alors que si on ne sait pas où on est, on va être comme un bouchon agité par les flots et on ne sera pas vraiment dans un dialogue avec d'autres. Hein. Donc quand je pointais du doigt le supermarché, ce n'était pas du tout pour dire restez enfermés dans votre petit bocal, là, tournez toujours avec les mêmes poissons. Non. Hein. C'est que dans une étape de construction, on pourrait dire, on a besoin de ça. De construction, puis après, je crois, toute la vie. Enfin, on a besoin d'avoir un repère qui nous permet de savoir qui on est. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut faire que ça.
Oui, non, en fait, il y a un propos là qui m'a parlé, et en même temps qui me pose plein de questions. Là, c'est la cohérence même interne à la tradition chrétienne. Comme si finalement, pratiquer, faire une retraite des exercices spirituels selon Saint-Ignace, faire la Lectio selon Guigues le Chartreux, et puis de l'oraison carmélitaine, c'était presque du syncrétisme en vous entendant. Enfin, comment discerner parce que de toute façon, toutes les traditions sont héritières de différents courants. Là, je parlais avec Sœur Marie des bénédictines de Notre-Dame du Calvaire que vous connaissez bien. Ce sont des bénédictines qui ont été refondées par un capucin, avec un apport d'exercice spirituel, etc. Comment faire ce discernement? Forcément, on est dans un bain où on hérite de différentes richesses spirituelles de l'Église. Alors, voilà, comment se situer par rapport à cette tradition? Comment savoir si comment dire, on est dans une voie ou alors si c'est du brouillage? Quels sont les...
Il me semble que votre question, elle est très théorique, parce qu'en fait, c'est bien que ce qui se passe concrètement, c'est une adhésion intérieure, quoi. C'est qu'il y a des auteurs spirituels, il y a des méthodes spirituelles qui nous semblent peut-être belles et édifiantes, mais qui ne sont pas notre truc. Et puis il y en a d'autres, on ouvre le bouquin et on se dit, bah, je suis chez moi. Donc c'est pas très compliqué en fait. En tout cas, il me semble qu'avec les maîtres spirituels, c'est tout à fait frappant ça. Le fait que quand on rencontre l'œuvre d'un grand de la tradition spirituelle, bon, si on a un minimum de curiosité intellectuelle, on peut lire tout le monde. Mais il y en a certains chez qui on va se sentir chez soi et d'autres. Voilà, moi j'ai un peu lu Thérèse d'Avila, je respecte infiniment, je peux même faire des cours dessus, mais je sais, je pourrais presque dire je ne vois pas de quoi elle parle. Ignace, c'est pareil. Alors que Eckhart ou Jean de la Croix, je ne dis pas que je suis du même niveau, mais j'ai l'impression que je parle à peu près la même langue, enfin qu'il parle d'une expérience qui doit ressembler un peu à la mienne, donc je me sens plus à l'aise. C'est difficile de l'argumenter plus, mais donc je pense que c'est un peu ça qui se passe chez beaucoup de chercheurs de Dieu. Ils cherchent et puis il y a un jour où ils trouvent, et ils n'ont pas besoin de se poser plus de questions que ça.
Pardon. Donc vous admettez que, parce que je ne sais pas, vous sembliez dire que c'était incompatible de faire de la Lectio Divina et les exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola, que ça allait brouiller les cartes et que...
Incompatible, incompatible, tout de suite les grands mots. Mais, oui, enfin, Je crois que c'est des, je crois qu'on ne mesure pas à quel point ce sont des mondes différents, enfin des théologies différentes. Et c'est curieux comme c'est difficile de faire entendre que, oui, au sein même de l'Église catholique, il y a des théologies différentes. Et c'est très beau comme ça. Mais ce n'est pas le même chemin. Donc je crois qu'il y a des moments où ça. Oui, c'est incompatible, c'est peut-être un grand mot, mais incohérent, c'est-à-dire que ça ne va pas bien, ça va pas bien s'articuler ensemble, parce qu'on ne parle pas Dieu de Dieu de la même façon. Mais Sœur Marie va reprendre
Je
l'orthodoxie.
rebondirai un petit peu. C'est vrai que ce que vous faites est intéressant, mais ça demande de savoir en fait enfin, comment Dieu nous mène. Et la grande question, souvent, c'est ça. Et c'est vrai qu'avant de savoir comment Dieu nous mène, il faut quelquefois picorer à droite, à gauche. Ce n'est pas donné d'emblée comme ça, par
Bien
la
sûr.
suite. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a. Il faut avoir l'humilité de se dire, eh ben, mon chemin, c'est celui-là. Et il y a une gourmandise spirituelle qui pourrait être néfaste. Voilà.
Tout à fait.
Donc c'est un peu une question d'ascèse, mais en fait, et puis savoir qu'on n'embrasse pas tout, on n'embrassera pas tout. Et tous les chemins, et ben, il faut renoncer à certains chemins pour se dire que le sien, enfin, mais ça, en fait, c'est vraiment découvrir comment Dieu nous mène. Et ça, je trouve ça passionnant. Enfin,
Oui, et puis je crois que, en effet, je n'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, sur cette période un peu de picorage, et d'excellentes revues comme la revue Priez permettent ça. C'est-à-dire que. Non mais. Il ne m'a pas payé pour faire une page de pub, mais la revue Priez, elle n'est pas liée à une tradition spirituelle. Donc elle présente différents chemins. Donc en effet, quand on feuillette la revue Priez, on est en contact avec tout un tas de chemins, et ça peut donner l'occasion à certains moments de se dire, ah bah oui, là, je me sens bien dans cette voie-là, et j'insiste encore sur le fait que quand je dis voie spirituelle, c'est à la fois, c'est pas d'abord des pratiques, c'est d'abord une manière de penser la vie spirituelle, quoi. Et que je crois que qu'entre les traditions monastiques anciennes centrées sur la lectio et sur l'office, où il y a, pour dire les choses un peu de manière un peu carrée, une certaine objectivité de la pratique spirituelle, où il s'agit de bien faire ce qu'on fait, et de, comme le dit la règle de Saint Benoît, comme la règle de Saint Augustin, que mon cœur s'accorde à ce que disent mes lèvres. Donc je dis le texte qui est prévu pour ce jour-là, et puis je cherche à m'y accorder. Et bien, je crois que ça, c'est une pratique complètement différente que de prendre le texte et de se dire qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui à travers ce texte. Le mouvement est rigoureusement l'inverse, quoi. Et c'est là que je dis incohérence, c'est pas pour dire qu'il y en a un qui est bon, l'autre qui n'est pas bon, mais c'est que est-ce qu'on est d'abord là pour contempler le mystère de Dieu, ou est-ce qu'on est d'abord là pour se demander qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est complètement différent. Quand je vois dans les exercices Ignace qui dit que devant la croix, il faut se poser trois questions, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour Dieu, et qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire pour lui, pour moi, ça m'est complètement étranger. Je ne sais pas de quoi il parle, quoi. Enfin, vous voyez, je ne fais pas mon cirque en disant ça. C'est que pour moi, c'est une forme de contemplation de la croix qui m'est complètement étrangère. Et je n'ai aucun problème pour reconnaître que c'est chrétien et que ça a produit des grands saints, hein. Ce n'est pas du tout des chamailleries idiotes ou des hiérarchies, bien sûr. Mais c'est pour dire, on n'est pas tous à l'aise avec toutes les formes de spiritualité. Non, c'est pas vrai. Non.
Que
Tata,
finalement,
il y a quelqu'un qui s'apprête à causer.
La question que je voulais poser, c'est que tout à l'heure, la sœur a indiqué qu'il y a des chemins auxquels il fallait renoncer. Je pense que pour renoncer à un chemin, c'est un montagnard qui vous parle, il faut l'avoir emprunté peut-être. Et que tout le monde n'aura peut-être pas la grâce, mais c'est peut-être ce qu'il a souhaité, ce qui est arrivé à Saint-Jean de Chantal, d'avoir quelqu'un qui lui permette de trouver sa propre spiritualité. Et c'est peut-être ça. Ma question, c'est est-ce que c'est pas à ça qu'il faut être attentif, c'est-à-dire d'être entouré de gens qui peuvent éventuellement nous aider à faire ce discernement?
Oui,
On
bien sûr.
Emprunté.
Mais en revanche, autant je suis tout à fait d'accord avec la fin, autant je ne suis pas du tout d'accord avec le début, parce que on ne peut renoncer qu'à ce qu'on a emprunté. Ben non, quand on fait un choix, quand on choisit de se marier, on renonce à toutes les autres femmes et on ne les a pas essayées. Non. J'en suis encore là, j'en suis encore dans une théologie du mariage complètement ringarde. Mais, donc non, bien sûr, on n'est pas obligé de tout essayer pour ensuite renoncer. Non, non. Mais en revanche, on peut se faire aider, ça, bien sûr. Voilà la gardienne du temps qui s'approche avec à la fois le sourire et de la fermeté.
À moins qu'il y ait vraiment une personne qui va mal vivre le fait que...
Il risque de somatiser.
Oui, alors, deux questions.
Ah, il en profite, hein.
Nous vivons à l'ère où on entend beaucoup parler des neurosciences. Alors, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que pour vous évoque le terme conscience, puisque vous parlez de Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent et immobile. Et je crois comprendre une espèce d'altérité dans votre discours par rapport à l'être humain, par rapport à Dieu. Donc la prière silencieuse... Est-ce qu'elle nous conduit vers une unité, c'est-à-dire que cette altérité disparaît finalement entre l'être humain et Dieu? Et alors il y a ce débat de la science, est-ce que la conscience produit le système nerveux, ou bien est-ce que c'est le système nerveux qui génère la conscience, hein? Donc le débat reste ouvert. Et est-ce que...
Bien.
Voilà. Alors, je vous invite déjà à les distinctions épistémologiques, et donc je veux bien parler de l'altérité de Dieu, mais à ce moment-là, je ne parle pas des neurosciences. Je veux bien parler des neurosciences, mais à ce moment-là, je ne parle pas de l'altérité de Dieu. Mais on ne fait pas de la théologie avec des neurosciences et réciproquement, parce que là, on ne peut plus penser. Alors, comme je suis théologien et pas neuroscientifique, je choisis la première question, puis sinon il y en a qui vont s'énerver sur la gauche, donc on va s'arrêter là. Vous posez la question de la vie mystique, en fait, et dont on ne peut parler que d'une manière paradoxale, au sens où à la fois nous sommes habités par, comme dans l'expérience amoureuse, par un désir d'union aussi étroite que possible. Et en même temps, c'est déjà pas possible dans l'expérience amoureuse, mais encore plus avec Dieu qui est radicalement autre que nous. De même, quand on parle de l'inhabitation, donc de la présence de Dieu dans l'âme, de la présence de Dieu en nous, c'est la même chose. Nous allons affirmer ce grand mystère, source d'un émerveillement total, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, Dieu habite en nous, et en même temps, quand nous disons ça, il faut, dans le même mouvement, ne pas oublier la transcendance de Dieu, c'est-à-dire qu'il est radicalement Dieu, il est radicalement autre, il n'est pas une partie de moi, il n'est pas moi, il n'est pas réduit à quelque chose que je contiendrais. Bon. Donc, c'est pour ça que les gens comme les mystiques rhénans, par exemple, ont été mettre la présence de Dieu dans la fine pointe de l'âme, qui est dans l'âme ce qui ressemble le plus à Dieu, et qui, du fait de son caractère immense, peut accueillir la présence de Dieu. Mais on se met très vite à bafouiller là-dedans. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse à votre question, où il y a une double réponse, il faut donner les deux réponses à la fois. C'est-à-dire que oui, il y a union, et oui, il y a altérité. Alors ça paraît contradictoire, soit il y a union, soit il y a altérité. Ben non, en fait, avec Dieu, il faut impérativement tenir les deux. Parce que nous ne sommes pas dans une tradition qui parlerait d'une dissolution de l'être humain dans le divin. Nous ne sommes pas dans une tradition qui parlerait d'une simple immanence de Dieu qui serait la vie des hommes ou une espèce d'âme commune, etc. Nous affirmons, nous osons affirmer à la fois la radicale transcendance de Dieu et sa radicale présence en nous. Attraper le micro.
Merci beaucoup.